Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour et bienvenue dans le Réveil culturel, émission préparée avec Corinne Amar, réalisée par Vincent Abouchard, avec ce matin, à la prise de son, Alain Joubert et notre invité du jour pour commencer la semaine, et Justine Beau, qui publie en cette rentrée littéraire son 5e roman. Un roman social avec une héroïne romanesque, mi-Rosetta, mi-Miss Meursault, une Cosette employée à mi-temps chez McDonald's, un revolver dans la poche et qu'on rencontre le jour de la mort de son père, quand tout le pays est en fête. Avoir 20 ans dans la misère de Cerbère. Cerbère, petit bled dans les Pyrénées-Orientales. Le temps d'un roman, le temps d'une semaine dans la vie d'une héroïne qui a pour prénom Nour, la lumière en arabe. Onanisme, le roman de Justine Beau, est édité par Grasset.
Le réveil culturel. Lundi, livre.
Traditionnel est terminé. Victoire. C'est le titre. La France est championne du monde. Pour la deuxième fois de son histoire. On a attendu 20 ans. Et on est encore champion du monde. Que c'est exquis, que c'est bon.
C'était l'année dernière, la France remportait la Coupe du Monde 20 ans après 98 donc. Et c'est comme ça que commence d'ailleurs le dernier roman de Justine Beau, le lendemain de cette victoire. Onanisme, extrait. Cette nuit encore, en fête la victoire. La fierté n'en finit pas de se déverser dans les corps. Ils dansent et ils hurlent et aussi. Minuit passé, j'ai 20 ans. Minuit passé, Saïd est mort hier. Et la veille, le pays a gagné. Sur la place centrale de Cerbère, la foule se rassemble en une seule matière. Les hommes s'atomisent les uns les autres. Je voudrais faire sortir mes yeux de leurs orbites pour qu'ils trouvent de quoi s'accrocher, à qui parler, qui suivre. Mais mes yeux, reclus en moi-même comme dans un grenier humide, ne voient rien ni personne. Je marche sans savoir où. Dans la panique, j'ai planqué Manurin dans la poche arrière de mon jean. Si je m'en saisis et que je tire, alors la foule, semblable aux paupières de Saïd, se refermera sur elle-même et je la trouverai avec calme. Bonjour Justine Beau.
Bonjour.
C'est Nour qui parle, à la 20 ans, le jour de la victoire donc de l'équipe de France, c'était en 2018. C'est aussi le jour de la mort de son père, Saïd.
Oui, exactement. Comme vous l'avez dit, le roman commence au lendemain de la victoire. Donc c'est aussi un moment de gueule de bois, d'hébétude, à la fois de joie et en même temps un moment de flottement. Qui s'appelle Nour, elle prend son service au McDonald's et quand elle rentre chez elle, elle découvre que son père Saïd vient de mourir. Et donc grande liesse qu'elle a sentie la veille liée à la victoire de la Coupe du Monde succède la tristesse immédiate causée par la mort de son père. Et ça me fait très plaisir en fait que vous ayez commencé avec cet extrait de la Coupe du Monde. Moi, j'ai toujours en tête en fait la voix de la foule qui chante la Marseillaise quand je pense au début de ce roman. Et c'est vraiment ça en fait qui a suscité l'écriture du livre. Au-delà du fait que le roman s'ouvre comme ça, c'est vraiment ce son, en fait ce bruit qui a fait que j'ai voulu écrire ce livre ou que ce livre a surgi.
Je suppose que c'est pas un hasard si votre personnage, l'héroïne de votre roman, puisque c'est aussi la narratrice d'une certaine manière, soit née en 1998, c'est-à-dire l'année d'une autre victoire de la France dans une Coupe du Monde de foot.
C'est absolument pas un hasard et en fait ce qui était très fort au moment de cette Coupe du Monde, moi qui ne suis absolument pas fan de foot et chez qui le foot a toujours suscité plutôt de l'interrogation, pour le dire poliment. J'ai vécu cette Coupe du Monde en étant complètement sidérée par ce qui se passait autour de moi. Donc, comme un peu tout le monde, je me suis prise au jeu d'aller voir les matchs avec mes amis. Et c'est un moment où on a beaucoup, beaucoup discuté, beaucoup débattu.
Pour la deuxième coupe, hein, parce qu'en 98, vous étiez trop jeune. Hein,
oui, mais j'avais 10 ans. Et donc j'avais 10 ans, puisque je viens d'avoir 30 ans. Donc en fait, le 98, c'était l'année de mes 10 ans ou de mes... Oui,
9 ans. 9 ans.
Bon, je ne sais pas compter, ça c'est pour ça que je suis devenue écrivain. et en tout cas, je m'en rappelais. Et justement, c'était ça qui était intéressant, c'était de discuter avec tous mes amis qui avaient à peu près le même âge à l'époque et de se souvenir de 98 comme d'un moment qui nous avait été aussi présenté, qui avait été sculpté comme un moment de grande victoire et de grande communion. C'était aussi un moment où on écoutait beaucoup de Rai. Vous savez, c'était la sortie d'Un, deux, trois soleils. Je crois que le disque est sorti l'année d'après. Et donc, il y avait eu déjà, en fait, en 98, nous, on était trop jeunes pour le penser comme ça, mais avec le recul, je crois qu'on le pense, en tout cas, les gens autour de moi partagent cette sensation. On était trop jeunes pour le penser comme quelque chose de politique qui s'inscrivait dans une fantasmagorie aussi des identités qui sont en communion les unes avec les autres.
En communion.
Oui, sauf que quand on regarde l'histoire à rebours, on se rend compte que c'était une jolie construction. Mais c'était
et que
aussi...
tout le monde s'en rappelait l'année dernière, parce que c'était pas la même chose la fête, la victoire de 2018 par rapport à celle de 1998.
Bah justement, c'est pour ça aussi que le roman commence comme ça, et c'est vraiment, c'est-à-dire que littéralement, j'ai commencé à écrire le livre entre la demi-finale et la finale, et c'était vraiment le sentiment de malaise, la sensation de malaise que j'avais à chaque pas en marchant dans Paris, entre ces deux moments, qui a fait naître cette écriture-là et la voix de Nour. C'est-à-dire qu'il y avait quand même cette volonté de se rattacher à cette grandeur de 98 et à ce symbole très fort que constitue le football dans notre univers politique, historique, etc. Et en même temps, malgré la liesse, malgré la joie, il y avait quelque chose d'électrique. On ressentait un malaise. Il y avait aussi l'évocation d'une menace sécuritaire. Et puis, il y avait déjà une ébullition politique qui était en germe à ce moment-là, sur laquelle on mettait pas vraiment des mots. Et donc, ça crée une atmosphère très survoltée et beaucoup, beaucoup de bruit. Et c'est ça que j'ai voulu retranscrire dans le livre, en fait. Et c'est un personnage qui, effectivement, est né en 98, mais comme elle est née en 98, elle s'en souvient pas. Donc, elle est née dans un rêve déjà déchu. Et elle voit advenir une victoire qui est amère avant même d'être célébrée.
Et ce n'est pas un hasard si son père, Saïd, est un ancien footballeur.
Décidément, il y a très peu de hasard dans ce livre.
Qui n'a jamais réussi dans sa carrière footballistique.
Qui lui aussi est dans une forme de déchéance. En l'occurrence, le roman commence juste après sa mort. Donc la déchéance ultime. Mais c'est effectivement un personnage et qui, en plus de ça, donc est né à Mersel Kébir d'un père... qui lui-même était français, qui faisait partie du Racing Club d'Alger, donc une équipe de football, voilà, un club de football assez prestigieux, en tout cas à l'époque. Et donc, lui a voulu faire comme son père, seulement il n'avait pas le talent, ou en tout cas, ça n'est pas arrivé. Et donc, Nour a vécu aussi dans une image du football qui était à la fois une image, une idolâtrie en fait par rapport au football et aux figures du football, et en même temps avec la perception de la déchéance de son père qui était très claire.
Pourquoi cette histoire de Nour, puisqu'on va vivre avec elle une semaine particulière, elle a 20 ans, elle perd son père, et tout autour, tout le monde fait la fête, pourquoi avoir inscrit cette histoire dans ce territoire, c'est-à-dire un territoire oublié, hein, c'est-à-dire on est avec cette France qu'on voit rarement, qu'on entend rarement, on est à Cerbère, mais est-ce qu'on peut même préciser dans les quartiers pauvres de Cerbère?
Oui, alors en fait, Cerbère d'abord, le lieu est arrivé comme ça, il a surgi aussi, parce qu'au départ, tout est parti d'une scène qui était une scène qui se déroulait sur la plage, et c'est le moment en fait où Nour trouve le revolver qui va l'accompagner durant ces 7 jours. et qui va voilà ouvrir une brèche dans sa vie. Et en fait, j'avais pas de lieu, j'avais simplement des images d'un lieu, donc des éléments en tête. Et je voulais un bunker sur la Méditerranée. Et donc, en faisant des recherches, je me suis très vite rendu compte que Cerbère était l'une des extrémités du mur du sud. Et donc, à partir du moment où j'ai trouvé ce lieu de Cerbère, que je connaissais pas vraiment, enfin dont je connaissais vaguement l'existence, mais
vous êtes allé sur place ?
Non, justement, et ça a été un choix vraiment. C'est-à-dire que j'ai commencé à me plonger dans la géographie des lieux. Les lieux sont en très grande partie fantasmés puisqu'il n'y a pas de McDonald's à cet endroit-là. Il y a bien cette départementale, et donc j'ai imaginé voilà un cube, un McDonald's,
un McDrive comme on dit.
Exactement. Donc Nour passe la journée dans son box à regarder le parking d'eau à la mer. Donc les lieux sont un peu fantasmés, mais en revanche j'ai complètement respecté la géographie et le caractère accidenté des lieux. Toutes ces ruelles qui sont arc-boutées sur la mer. Et effectivement, Nour, elle habite dans une résidence qui s'appelle Bellevue. Le nom aussi était intéressant.
Et qui tombe en ruine, on peut le dire. L'ascenseur ne fonctionne pas. C'est un peu la France de ceux qui se lèvent tôt que pour aller chez Pôle emploi.
Oui, encore une fois, c'est aussi un rêve déchu. C'est-à-dire que c'est une résidence qui date... sans doute, il y a bien une résidence à cet endroit-là, à Cerbère, je ne sais pas. Plus à quelle époque elle a été construite, mais en tout cas, ce que décrit Nour, c'est une résidence construite dans les années 70, qui a dû être agréable à un moment donné, mais qui est un peu où tout a été construit en série, tout a été décliné, et donc elle dit de ce lieu qu'il est personnalisable en surface, mais indépassable en profondeur. Et donc, effectivement, c'est un endroit. Je pense pas particulièrement que la sociologie soit aussi claire dans la réalité, et elle est pas forcément dans le livre. Simplement, ce qui est déterminant chez Nour, c'est l'absence de perspective, c'est-à-dire que la petitesse du territoire et le fait qu'elle est totalement démunie par rapport à son futur, elle a pas fait d'études, voilà, elle est à mi-temps au McDrive.
Et cette mi-temps va bientôt prendre fin.
Ouais.
Et puis surtout, elle s'adonne au plaisir solitaire qu'elle peut même pas pratiquer chez elle et qu'elle est obligée d'aller ailleurs dans ce bunker où elle va trouver ce revolver. Et à partir de ce revolver, vous installez dès le début de votre roman ce ressort de dramaturgie. Qu'est-ce qu'elle va faire avec ce revolver ? On est tout de suite dans cette ambiance camusienne, même si il s'agit des temps modernes, même s'il s'agit de 2018, le soleil est là, il est très très présent, il renvoie bien sûr à l'étranger de Camus elle-même. C'est une référence sans doute à Meursault.
Oui, c'est pas du tout une référence consciente au départ. Maintenant, Camus est vraiment la figure de l'écrivain qui m'a le plus guidée, je pense, enfant, adolescente, dans ma vie, etc. Donc la référence, elle est forcément là. Mais en revanche, c'était pas du tout une référence d'écriture. Je me suis pas du tout référée à l'étranger. Mais les éléments qui guident l'écriture de Camus, qui sont présents dans sa langue, sont des éléments qui, moi, me guident aussi. C'est-à-dire, effectivement, ce soleil qui est à la fois un élément de beauté, mais qui aveugle la narratrice au fur et à mesure, cette chaleur suffocante, sont des éléments qui vont au fur et à mesure aggraver son état de sidération, de colère, et qui vont motiver aussi sa trajectoire.
Le réveil culturel. Tufik Hakem. Thank you.
Onanisme, c'est le titre de votre roman, Justine Beau. Mm-hmm. Mais alors, il n'y a aucun extrait dans votre livre qui renverrait plutôt à la sensualité, à la sexualité, au tabou. Toutes ces scènes où elle s'adonne justement à ce plaisir solitaire, votre héroïne, Nour, ne font qu'accentuer le caractère solitaire de cette jeune fille.
Oui, en fait, l'un des éléments qui est vraiment important chez Nour, c'est son silence. Et c'est aussi en cela qu'elle est seule. C'est-à-dire que elle ne parvient pas à inscrire sa parole dans le monde. Elle ne parvient pas à communiquer avec les autres. Elle ne comprend pas vraiment les mots des autres. Et elle laisse les mots des autres la recouvrir. Donc, elle a aucun lien avec les autres. Et elle ne veut pas vraiment exister. Donc, elle se réfugie dans des lieux où elle est sûre de ne pas être découverte. Au fur et à mesure du livre, en fait, elle va être de plus en plus interrompue. C'est-à-dire que même les soupapes de sécurité qu'elle arrive à se créer ne tiennent plus. Et effectivement, elle n'a pas vraiment de lien charnel avec les autres. Cet onanisme, cette masturbation, c'est une mécanique de la chute en avant. Et c'est un mouvement de ressassement permanent.
La vie nous habitue à la peur de l'habitude. On l'appréhende avec angoisse, on l'avorte avant qu'elle n'advienne, créant les conditions d'un ressassement qui devient l'habitude même. La vie est une masturbation perpétuelle. Onanisme des malheurs et des mémoires, onanisme du dégoût que l'on traîne avec soi comme une malle dont on ignore le contenu. Cet extrait d'onanisme de mon invité ce matin, Justine Beau.
Réveil culturel. Toufik Hakem.
Avec Justine Beau, à l'occasion de la sortie chez Grasset de son cinquième et dernier roman, Onanisme. Et là, on vient d'écouter Chibop. Déjà en 1983, les filles parlaient justement de l'onanisme à leur manière. Sidney Lauper, vous connaissiez ?
Oui, je connaissais. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas entendu cette chanson. Ça me fait plaisir de l'entendre aujourd'hui.
C'est un roman social où vous avez l'impression d'avoir écrit volontairement un roman social parce qu'il y a quand même toute cette description de la famille de Nour, des voisins de Nour, de son travail, de ceux qui auraient pu être ses amis, de sa colère froide. J'ai pas envie de raconter comment se termine ce livre, mais disons qu'il se termine dans une dramaturgie qui nous rappelle l'actualité de ces dernières années en France. Mais il y a aussi, à travers la voix de votre héroïne Nour, on a l'impression d'entendre la vôtre de voix, Justine Beau, quand il s'agit de décrire la société d'aujourd'hui.
Je sais pas si le projet en lui-même était d'écrire un roman social, c'était un peu plus à la fois un peu plus diffus et un peu plus précis que ça, c'est-à-dire que ce qui m'intéresse en général, ce sont les lignes de fracture, les failles et ce qui m'intéressait chez Nour, c'était le fait qu'elle était un tout petit peu en marge, pas au sens de la marginalité organisée, etc. Mais c'est quelqu'un qui, encore une fois, ne comprend pas en fait le monde dans lequel elle vit. Et elle a la sensation, voilà, de voir une bande sonore se dérouler autour d'elle sans qu'elle puisse en comprendre le sens et le rythme. Et effectivement, dans ce cadre-là, je trouvais ça impensable en fait de parler d'un autre en droit de la société que celui-là. C'est-à-dire que quand j'ai commencé l'écriture, j'avais sorti un roman pas très longtemps avant. Je me suis trouvée dans une situation où je trouvais ça impossible, en fait, de pas parler d'argent, de pas parler de l'absence de perspective, de pas parler du fait de se trouver à un endroit et de ne pas pouvoir en sortir. Et c'est vraiment venu d'un essoufflement total, en fait, de pas trouver d'autre endroit d'écriture que celui-là.
Votre précédent roman, c'était « Si nous ne nous brûlons pas ». Vous étiez venu nous en parler, puisque votre roman est sorti l'année dernière aux éditions des Équateurs. C'était un coup de gueule. Là, il y a une histoire bien structurée, ce qui n'empêche pas la dimension sociale d'être très présente du début jusqu'à la fin.
Oui, en fait, le personnage est dans une extra-lucidité sur tout ce qui se passe autour d'elle. Et c'est vrai que le livre s'inscrit dans la lignée de « Si nous ne brûlons pas ». Dans le propos, moi je j'arrive pas à faire le deuil de mes colères en fait. Donc il m'est aujourd'hui impossible de ne pas essayer de raconter l'hébétude d'un personnage qui est choqué par les relations de domination qu'elle voit autour d'elle et auxquelles elle-même est soumise, la violence des genres qui est pour moi aujourd'hui insoutenable, une violence aussi raciste, sociale, politique, qui s'exprime dans le livre. Et là où il y a quelque chose de différent, effectivement, avec le livre précédent, c'est que celui-ci a beaucoup plus la structure d'une tragédie. Il est beaucoup plus ramassé, c'est un huis clos, c'est sans doute plus nerveux aussi. Et surtout, il y a de l'oralité. Et ça, c'était la grande inquiétude littéraire que j'avais aussi en l'écrivant, c'est-à-dire que c'est la première fois que vraiment les mots des personnages interviennent dans le récit. Et ces mots des personnages, ils interviennent dans le récit parce que Nour ne cesse d'ausculter le langage des autres. Et ce langage, c'est un langage où on trouve toutes ces petites choses qui font de la violence du quotidien.
Par exemple, ça, et j'aime beaucoup cet extrait. Acheter deux trucs pour le prix d'un. Se fondre d'un bidule en solde. Fantasmer le caractère bon marché de quelque chose parce qu'il est à 14,99€ au lieu de 15. Imaginer un futur meilleur rendu possible par la grâce d'une galerie marchande généreuse. Le prix est territoire. L'objet ne coûte plus une somme, il est à une somme. À 5, 10, 15, 20€. Il est à 30 balles comme un tel est à New York, à 50 boules, comme le rendez-vous est à 20h. Le prix est à la fois espace et temps. Le prix, omnisciente horloge, délimitant nos pas et nos désirs d'aller ou de ne pas aller, englobe toutes nos vies. Nous avons été dévorés par le prix.
En fait, et ça répond aussi à votre question précédente, ce qui m'intéresse, c'est la manière dont l'espace intime est totalement enserré par les dimensions politique, économique de nos vies. Et Nour, comme justement elle a pas d'argent et que elle est sans cesse dans le décompte des quelques économies qui lui restent, et ben elle décortique tous les petits endroits où ce capitalisme la ronge en fait. Capitalisme ou pouvoir de l'argent, enfin c'est même au-delà de simplement ce système économique là. Et donc elle se rend compte qu'elle est totalement cernée. Et ça intervient aussi par toutes les personnes qui sont autour d'elle, tous les amis de son père qui vont intervenir dans le processus des funérailles et qui vont faire montre en fait d'un racisme absolument inouï sans s'en rendre compte.
Et terriblement ordinaire d'ailleurs.
Et terriblement ordinaire parce que c'est
que
dans des petits mots.
Peut s'avérer être un bon type par ailleurs.
Oui, totalement. C'est-à-dire que ça intervient dans des virgules, dans des intonations, dans des petites manières d'appuyer certains mots, dans les sujets de conversation qu'on va choisir quand on voit telle ou telle personne entrer dans la pièce. Et Nour, c'est aussi quelqu'un à qui on répète au fur et à mesure du livre « ma petite fille, t'es une petite innocente ». C'est-à-dire on ne cesse de l'infantiliser, de la diminuer.
Vous l'avez appelé Nour, en arabe ça veut dire « lumière », parce que Vous saviez que le sujet, que le roman allait être noir, sombre, et qu'on allait raccrocher à cette actualité terrible que sont les attentats djihadistes.
On peut tout à fait dire tout ça. Me connaissant un tout petit peu, j'avais du mal à imaginer que le livre serait autre que noir.
Et comment on ressort de cette expérience, de ce livre, Onanisme, Justine Beau?
C'est très particulier parce que je l'ai écrit en très peu de temps, donc je pense pas en avoir totalement terminé avec ce texte. En tout cas, je trouve que j'ai l'impression que ça m'a ouvert d'autres perspectives d'écriture, donc j'ai envie de poursuivre cette expérience-là, quoi.
Pour notre plus grand plaisir, merci d'être passée ce matin, Justine Beau. Merci. Onanisme est édité chez Grasset.
Le réveil culturel de Tufik Hakem est à retrouver sur franceculture.fr.
Bonne journée, à demain.